Donc, bonjour à tous et à toutes. Je tiens à remercier en fait les membres de l'IPSEM et tout particulièrement Rémi Gagnard qui m'a permis de venir un peu m'exprimer, même si ce n'est pas tout à fait le cadre habituel de mon exercice, puisque comme on vous l'a dit, j'exerce essentiellement dans la médecine d'urgence. Je pense qu'un lien étroit peut être noué entre l'éducation thérapeutique et la médecine d'urgence, et ce que je vais essayer de vous montrer est un peu le fruit à la fois de mes travaux et de ma réflexion dans ce domaine. Alors, quel est le lien? Eh bien, le lien de l'éducation thérapeutique et l'urgence, c'est certain, l'éducation thérapeutique va permettre au patient d'acquérir ou de maintenir des compétences dont il a besoin pour gérer au mieux sa vie et surtout lorsqu'il est porteur d'une maladie chronique. C'est un processus continu, c'est en tout cas la définition qu'en donne l'OMS, et l'éducation thérapeutique a permis de montrer une efficacité qui est assez démontrée dans le cadre de ces maladies chroniques. En termes d'urgence, eh bien, certains travaux, notamment les travaux qui ont été menés dans le domaine de l'asthme, ont pu montrer que les patients qui bénéficiaient de cette éducation thérapeutique avaient moins recours aux services d'urgence et que les consultations non programmées en étaient clairement diminuées. L'éducation thérapeutique structurée donc plus efficace que l'information, même si dans le domaine de l'urgence, on a plus souvent affaire à une information qu'à une authentique éducation thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'être compétent? On sait que la compétence est un, et notamment la compétence des patients est un concept relativement nouveau. Et on ne peut parler de compétence qu'à partir du moment où il y a une mobilisation des ressources que l'on souhaite pertinentes. C'est ce domaine de mobilisation qui est rappelé à la fois par Scalon et souvent par Quetel, que ces patients peuvent se montrer compétents lorsque apparaît un contexte de contrainte. Et c'est tout à fait le cas de l'urgence, lorsque le patient est confronté à une situation qu'il a du mal à maîtriser, ce que nous appellerons, nous, en tant qu'urgentistes, souvent les situations de crise. Il doit faire face à des situations problèmes, des tâches relativement complexes, qui se précipitent à la fois dans l'espace et dans le temps. Et sa compétence est de pouvoir mobiliser indéniablement des savoir-faire et surtout un savoir-être, notamment un savoir-être émotionnel et comportemental. Pour résoudre ce type de problème, donc, il doit faire face à une prise de décision, et c'est la grande discussion que nous aborderons ensuite. Il doit être également dans un domaine de compétences qui doit donner une large vision et une vision de qualité en termes d'efficacité. Cette compétence doit être offerte et possible à un plus grand, large public pour permettre aussi une équité à la fois de soins et une équité pédagogique. La maladie chronique, eh bien, dans le cadre de l'urgence, c'est surtout le diabète, c'est l'asthme, la maladie coronarienne. On doit considérer en tant qu'urgentiste, et c'est un peu l'évolution du moment, c'est de penser que ces maladies chroniques sont surtout émaillées de crises auxquelles le patient doit faire face. Patients, certes, mais également souvent sa famille. On vient d'en parler, la famille est particulièrement touchée lorsque survient un événement aigu dans le cadre de ces malades qui présentent une pathologie chronique. Et l'inquiétude, et c'est essentiellement de devoir faire face, mais également de décider et parfois devoir agir seul, en tout cas dans un premier temps, face à ce type d'événement. Alors la crise, eh bien, c'est donc cette prise de décision. J'ai repris Edgar Morin qui dit que la crise vise à décrire des processus de déstabilisation et de remise en cause brutale des modes de fonctionnement et de régulation des individus, des groupes, des organisations et des nations. Et pour un malade, eh bien, le phénomène de crise est réellement une déstructuration, une déstabilisation de son état et également une déstabilisation par rapport à son contexte de vie et à son contexte social. Il s'agit souvent d'un stade d'évolution au cours de sa maladie dans lequel ce patient est amené à prendre une décision bonne ou mauvaise. Mais malheureusement, ce que nous constatons souvent dans le cadre de l'urgence, c'est que cette décision n'est pas prise et que l'on assiste souvent à une non-prise de décision qui ne fait que précipiter l'état d'aggravation du patient. Donc toute situation comprenant des données initiales, un but à atteindre, des contraintes contextuelles pour laquelle le patient ne dispose pas généralement des réponses à l'avance et d'autant moins s'il n'en a pas eu une éducation. Le patient s'est-il préparé à affronter les crises, ou pour le moins celles qu'il considère comme possibles? C'est le cas, par exemple, de l'hypoglycémie qui est fréquemment repérée par les patients diabétiques. Malheureusement, ils connaissent un peu moins, c'est ce que l'on constate, les phénomènes d'hyperglycémie. Donc, identifier, si possible, le type de crise redoutée. Décider, oui, mais comment ? Décider, c'est avant tout prendre une décision, c'est mettre en œuvre tout un processus qui, in fine, produira un choix. Les étapes, c'est d'abord de délimiter le problème, les facteurs à prendre en considération, puis identifier et évaluer toutes les solutions qui se présentent à ce patient et les solutions alternatives réalisables. Ensuite, c'est sans doute élaborer des critères de sélection, de hiérarchisation qui vont lui permettre d'obtenir un choix le plus pertinent, le plus judicieux qui soit. Donc on s'est un peu orienté dans le point de vue du concept sur les trois dimensions de la compétence. Qu'est-ce que c'est qu'agir avec pertinence et compétence pour un patient ? Eh bien, c'est probablement de disposer des ressources personnelles, mais des ressources également externes, avec tout le domaine de soins et les systèmes sanitaires qui l'entourent, et pouvoir se dire « j'ai des ressources ». C'est également savoir mettre en œuvre, et de façon pratique, ses savoir-faire. C'est « je sais agir, je peux réussir, car je l'ai déjà fait, je sais réaliser un dextro, je sais la valeur de ma glycémie capillaire, et je sais l'analyser, et je sais l'interpréter ». Et puis, c'est aussi prendre du recul face à ces événements de crise, savoir analyser. Je sais décrire, je sais expliquer, je sais analyser pourquoi je l'ai fait, ce que j'ai compris de ma maladie, ce que j'ai compris de la crise, comment je sais faire pour apprendre à agir et dans telle situation, et repérer les différents types de situations qui m'ont conduit, en fait, à prendre ces décisions. C'est une forme un peu de métacognition par rapport à cette vision de la maladie. Apprendre à mobiliser des compétences en situation, c'est donc apprendre à agir avec compétences en situation. Alors, le tout s'intègre dans ma pratique au quotidien. Le SAMU, eh bien, c'est un concept français. Peu de pays disposent d'un système sanitaire qui permet en fait d'obtenir des soins à domicile, des soins médicalisés. Le concept, donc, c'est un concept de régulation médicale qui permet d'optimaliser les moyens par le biais des SAMU et de déclencher, en fait, seulement dans les cas les plus graves, dans le cas des détresses vitales. Le constat que nous avons fait, donc, en tant que médecin de SAMU et d'urgence, eh bien, c'est qu'il existe, en tout cas, un énorme écart entre la culture de soins, entre ce que les besoins pressentis des patients et les soignants. Les propos qui ont pu être recueillis au cours de divers entretiens auprès des patients montrent qu'ils ont souvent développé, grâce à leur expérience et au quotidien de leur maladie, des compétences, des connaissances. Malheureusement, les soignants ne savent pas toujours les évaluer et parfois ne veulent pas les évaluer. Les attentes et les ressentis, en fait, de ce patient, sa qualité de vie, sa relation aux autres, sa relation notamment familiale, et l'émergence d'un certain nombre de liens qu'il peut nouer au niveau social ne sont malheureusement pas pris en compte et souvent faute de temps. L'hypothèse que nous avons donc formulée au cours de nos travaux, c'est qu'une meilleure compréhension et adaptation des compétences des patients chroniques en situation de crise peut améliorer la qualité de prise en charge et l'adhésion aux soins d'urgence. Les professionnels de santé sont peu à peu conduits à considérer le patient et son entourage comme de véritables partenaires de soins. Et je pense que l'évolution du temps fera qu'on devra de plus en plus les considérer comme de véritables partenaires. Il est donc indispensable que patients et soignants puissent enfin s'accorder sur les compétences à mobiliser dans le contexte d'action et notamment dans un savoir-faire et d'un savoir-agir où le risque vital est parfois engagé. Alors, il faudra tenir compte du contexte, du savoir-agir, contexte qui est souvent un contexte formatif, c'est aussi la volonté, vouloir agir avec un contexte incitatif, avoir du sens, donner une représentation, une image de soi, la reconnaissance et la confiance. Et puis aussi, c'est la possibilité de pouvoir agir avec un contexte facilitateur, qui est ce cadre institutionnel, le cadre social, le cadre familial, qui joue une importance majeure à notre sens, et une mobilisation en fait de toute l'organisation des réseaux sanitaires autour de ce patient et de sa famille. Alors, il m'était demandé de cerner les avantages, les limites et surtout les conditions de ces compétences. Eh bien, les avantages, on a pu les cerner à travers une étude que j'ai pu réaliser dans le service du SAMU 59, donc à Lille, où je me suis adressée à une panel d'experts préhospitaliers pour dégager en fait un consensus sur les compétences que l'on estimait potentiellement et possible chez des patients coronariens. Ces 58 en fait experts se sont interrogés et ont interrogé en fait les besoins qui avaient été pressentis par les patients au cours d'une étude préalable. Donc on a pu mettre en évidence 20 compétences de mise en œuvre avant l'appel des secours, pendant l'arrivée des équipes et puis au moment où se passe l'intervention des SMUR. On a pu cerner en fait une possibilité de compétences dans 10 domaines de taxonomie, avec notamment, vous le voyez, alerter, passer un bilan, savoir appeler les services de secours, faire appel aux services de santé, repérer les signes d'un syndrome coronarien, ses complications, assurer son confort et gérer l'attente, organiser l'espace, préparer les documents, participer et pratiquer l'auto-soin, notamment de s'appliquer des dérivés nitrés, établir une relation avec son entourage ou encore établir des relations avec le soignant et exprimer ses besoins. Vous voyez, ces 10 compétences, ces 10 domaines, en fait, rassemblent les domaines cognitifs, psycho-affectifs également et psychomoteurs. Alors, du savoir au savoir-faire, au savoir-agir, le but c'est, et nos objectifs, eh bien, c'est avant tout d'aider le patient à investir son savoir préexistant, l'amener à évoquer ses émotions qui se rattachent souvent à la situation d'urgence et de crise, prendre conscience de ses insuffisances et l'aider à construire un nouveau savoir. Aider la personne à organiser sa pensée, aider surtout à le distancier de son vécu émotionnel qui est souvent très angoissant, parfois très douloureux dans la situation d'urgence, pour qu'il puisse en fait proposer lui-même des solutions qui soient acceptables. Notre souhait est qu'un patient plus impliqué, qui participe aux décisions médicales, qui diminue son anxiété, augmente son efficacité de soins et surtout son degré de satisfaction. Le rôle de la famille, eh bien, c'est de réussir à amorcer l'éducation du patient, le faire participer là, au cours des épisodes aigus de la maladie. Le rôle, comme on l'a vu tout à l'heure, le rôle de la famille est souvent indispensable. Néanmoins, les soignants ont une attitude assez mitigée quant au rôle de cette famille et très peu de soignants estiment que la famille est porteuse dans la situation d'urgence. Elle est souvent considérée comme un frein et une limitation. Néanmoins, pour certains, eh bien, on peut parler de transactions entre le patient et le milieu et notamment une relation dynamique qui s'instaure au sein de la famille au moment de ces situations de crise. Par ailleurs, le patient se doit d'acquérir la conduite à suivre en cas de crise. Nos études qui ont été menées nous ont permis de pouvoir préciser que l'éducation en situation d'urgence doit mettre l'accent sur le repérage des signes de gravité, l'utilisation des outils de mesure, des bimètres de pointe aux mesures de la glycémie capillaire, le recours aux médicaments en situation de crise et l'appel aux médecins ou aux services sanitaires nécessaires en fonction des symptômes observés et du degré d'urgence. Les limites, elles sont nombreuses, notamment la première, les réticences des soignants, qui considèrent encore que la participation aux soins et aux décisions médicales des patients est complètement illusoire, voire pour certains, dangereuse. Et ils pensent que le consentement éclairé dans cette situation est un leurre. La médecine, c'est la médecine surpuissante. La médecine d'urgence, c'est celle qui guérit, qui soigne et guérit. Le paradigme dominant repose donc sur une trop grande confiance placée dans la technique du savoir médical et sur une conception de la médecine toute puissante, basée sur la transmission verticale du savoir médical. Un enseignement où tout est fait pour et fondé sur la compétence à transmettre, mais non toujours du haut vers le bas et jamais du bas vers le haut. Que penser de ce malheureux patient confronté à cette surpuissance médicale? La situation du patient, eh bien, elle oscille entre un autoritarisme débordant ou un infantilisme primaire. Le malade, lui, il devrait pouvoir se sent obligé d'obéir. Il devrait pouvoir se plaindre, poser des questions, donner son opinion. Malheureusement, un état d'esprit est fait que tel que le malade lui-même se censure et auto-censure. Il a intériorisé les critères de pouvoir et les a complètement assimilés. D'un côté, trop souvent, l'approche proposée par le soignant et l'expérience professionnelle, c'est « je dis, je montre, j'explique et je propose un traitement ». Pour le patient, eh bien, il doit être compliant. Il n'a qu'à se laisser faire, se laisser traiter, s'appliquer, s'exécuter. On peut lui tolérer quelques préceptes et quelques autres petites prescriptions. Il est clair que un autre facteur limitant, eh bien, c'est un facteur stress. Dans la situation d'urgence, il est difficile de concevoir que le patient puisse mémoriser qu'il soit propice à une éducation thérapeutique, en tout cas au long cours, car on sait que le stress parasite souvent la mémoire des patients. Et puis, il y a un autre aspect du problème, un autre facteur limitant qui est la difficile prise de risque. La compétence renvoie toujours le sujet à sa prise de responsabilité et l'engage. La responsabilité, c'est aussi le fait qu'on fasse confiance au sein desquels il doit assumer une prise de risque, qui est un risque cognitif et si possible un risque limité. Pour le soignant, eh bien, c'est tout ça. C'est un corps souffrant, c'est un corps mis à nu, souvent livré, partagé, parfois mutilé, technologisé, dépossédé, et parfois, au pire, complètement nié. C'est aussi agir vite dans l'urgence, c'est une nécessité. Pour le soignant, c'est mettre en évidence et en avant l'efficacité, la technologie, la cohérence et la compétence de l'équipe. Pour le patient, c'est une réclame de qualité de soins, une présence, la disponibilité et une compétence technique des soignants. La nécessité d'agir vite, c'est aussi faire face à la détresse vitale. C'est souvent, malheureusement, un temps qui est consacré aux soins, à l'action technique et qui limite considérablement la relation humaine et l'entretien. Le patient, son vécu, ses questions, ses peurs, ses attentes restent souvent du domaine du non-dit et souvent négligés par les soignants. La plainte du malade est souvent ressentie comme une authentique menace pour le thérapeute, tout particulièrement pour les thérapeutes de l'urgence. Or, elle ne fait qu'exprimer une peur, un désaccord de la part du malade qui devrait être pris en considération pour gérer et aboutir à un consentement mutuel. Un autre aspect de notre étude a montré que les différences d'appréciation des soignants peuvent se quantifier. Nous avons étudié donc sur une échelle de Likert un petit peu les propositions face à ce que le patient et ou son entourage pourraient faire durant une prise en charge par le SMUR. Et l'on observe que l'âge et le sexe féminin apparaissent comme des variables déterminantes. Les soignants les plus jeunes affirment la nécessité de conditions spécifiques à l'accomplissement d'une compétence des patients. Ils expriment plus volontiers l'expression émotionnelle et le vécu du patient. Ils pensent que le patient peut les aider et même guider les soignants dans leurs choix, notamment, par exemple, pour la pose d'une voie veineuse. Ils sont plus souvent ouverts aux technologies modernes et pensent que faciliter la communication à distance entre soignants et soignés est une possibilité. La profession, elle, ne constitue pas une variable discriminante, c'est-à-dire qu'on n'observe pas de différence entre le fait d'être infirmier ou d'être médecin. Les conditions de recours aux compétences de ces patients, eh bien, voilà le résultat d'une analyse de contenu. 88% des sujets interrogés pensent que les conditions d'application dépendent essentiellement de l'état physique du patient, son degré d'autonomie physique et mentale, ses capacités cognitives, notamment, sont très limitées lorsqu'on a affaire à des sujets qui présentent un état démentiel, les possibilités de s'exprimer, notamment lorsqu'ils ont des séquelles à type de troubles phasiques, et d'avoir le bon réflexe d'avoir été initié à faire le 15. Néanmoins, 50% pensent qu'alerter et passer un bilan est un acte encore difficile et que de nombreux facteurs socioculturels sont des facteurs qui sont encore des conditions limitantes. Le barrage linguistique en étant un souvent évoqué également. La notion de compétence varie donc en fonction de l'expérience que le malade a aussi de son vécu. Les conditions sine qua non, eh bien, c'est surtout ne pas nier la situation. Quelle que soit sa maladie, le patient doit pouvoir faire preuve d'une grande maîtrise psycho-affective pour résister à la peur et surmonter la douleur, pour agir avec compétence en situation d'urgence. Enfin, tous pensent qu'il faut développer la culture de la crise, une volonté commune, un état d'esprit propice pour abonder et amorcer le phénomène de crise. La culture de la crise correspond à la capacité collective à se poser des questions et non à la capacité de quelques-uns à apporter les réponses, et je pense qu'on peut renvoyer ça à bon nombre de nos collègues du corps médical. Semer les conditions dans un milieu fertile, se poser des questions, générer des idées, parfois même des idées inacceptables, et remettre en cause des convictions complètement erronées. Eh bien, la culture de la crise ne doit pas se confiner au règlement des chocs ponctuels, mais bien s'inscrire dans un état d'esprit par rapport à un réflexe quasi conditionné. En conclusion, une approche centrée sur les compétences comme but à faire atteindre aux patients pour qu'ils puissent gérer la maladie dans le plus grand nombre de situations d'urgence offre de nouvelles perspectives. En tout cas, c'est ce que j'ai tenté de vous démontrer, que la mise en place d'un tel dispositif suppose motivation, formation de l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire soignants et patients, ainsi que leurs familles, requiert une authentique négociation pour une responsabilité partagée entre soignants et patients, et que les programmes éducatifs basés sur l'autogestion pourraient intégrer ces choses et ces éléments pour une amélioration constructive avec l'idée et l'authentique souhait qu'on ait un recours diminué du recours aux services des urgences pour ces patients présentant des exacerbations de leur maladie chronique. L'impact est d'autant plus fort lorsque le patient dispose de plans d'action personnalisés écrits dès la sortie des urgences. C'est en tout cas ce qui a été démontré dans quelques études. Je vous remercie et je remercie notamment toute l'équipe qui a travaillé avec moi au CEMU Centre 15 pour l'effet d'innovation et que je leur ai proposé en acceptant de travailler sur l'éducation thérapeutique, eux qui n'en ont absolument pas l'habitude. Je vous remercie de votre attention.